pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Wid le Cher, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh,
oh.
L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte du folklore anglais intitulé « L'homme vert », issu du recueil « Sorciers et magiciens » de Fiona Waters et Fabien Negrin. Cet instant sera suivi de la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons un texte de Jules Michelet de 1847 intitulé « Nos pères commencèrent le droit ». Issu de l'ouvrage 1989, recueil de textes et documents du XVIIIe siècle à nos jours, édité par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports de 1989. Viendra ensuite la rubrique Environnement, où nous entendrons une utopie en construction de Lyle Watson, la parole de Peter Kleck et la recette éco-geste pour faire son propre lave-vitre. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective, pendant lequel nous parlerons accords d'entreprise relatifs à la semaine de 4 jours. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Les allumeurs de réverbères.
L'homme vert, conte du folklore anglais, issu du recueil Sorciers et magiciens de Fiona Waters et Fabien Negrin.
Il était une fois un meunier qui regardait tourner la roue de son moulin, lorsque quelque chose au bord de l'eau attira son attention. Il s'agissait d'un minuscule homme vert, à la chevelure formant une masse de mousse emmêlée, à la peau lisse, comme l'écorce du bouleau, et qui portait une cape de feuilles de chêne. Le meunier avait entendu parler des pouvoirs magiques de telle créature. Aussi se pencha-t-il sans bruit, comme pour lui parler, et s'empara-t-il du petit homme vert. Ce dernier poussa un cri de détresse, mais le meunier le tenait fermement. Il l'emporta chez lui et l'enferma dans une boîte de verre. Bientôt, les villageois, pour satisfaire leur curiosité, accoururent en nombre, et le rusé meunier leur fit payer un sou à chacun pour contempler le petit homme vert. À présent, le meunier n'avait plus besoin de moudre le blé. De son côté, le petit bonhomme vert maigrit, ses yeux brillants se ternirent et sa cape de feuilles de chêne se flétrit. Un jour, le fils du meunier s'approcha du petit homme vert dans sa prison de verre pour le regarder de près et vit deux larmes rouler sur ses joues. « Pourquoi pleures-tu, petit homme ? » demanda-t-il. « Tu es très bien dans ta boîte de verre. »
« Je ne supporte pas d'être enfermé ainsi, » répondit le petit homme vert. « Je veux sentir la bonne terre brune sous mes pieds, le vent dans mes cheveux et la rosée sur mon visage. »
Le fils du meunier comprit et ouvrit la boîte. Le petit homme vert bondit vers la fenêtre en criant « Viens avec moi, nous vivrons sous les arbres et je t'enseignerai les secrets de la nature. » Et il en fut ainsi. Jamais on ne revit l'enfant ni le petit homme vert dans le village. Le meunier paresseux dut recommencer à moudre le blé et la malchance le poursuivit sans cesse. Mais le petit homme vert tint parole et le fils du meunier devint un beau jeune homme, instruit dans la science des créatures sauvages et des plantes. Le temps passa et un jour, bien des années plus tard, le petit homme vert dit au fils du meunier « Je t'ai enseigné tout ce que je sais de mon monde. Il est temps pour toi d'aller chercher fortune. Tu vas te rendre au palais royal pour trouver du travail, mais tu ne dois pas dire un seul mot ou ce sera ta perte. Si jamais tu as des ennuis, toutefois, cueille 3 feuilles de chêne et frotte-les les unes contre les autres. J'apparaîtrai aussitôt. » Et le jeune homme s'en alla. Tout le long du chemin, les gens riaient de lui tant son allure paraissait bizarre, avec ses cheveux longs, emmêlés et pleins de feuilles, ses pieds nus et ses vêtements en lambeaux. Mais il arborait un visage honnête. Aussi le cuisinier le prit-il dans sa cuisine et lui fit-il laver les montagnes de vaisselle sale du banquet de la veille. Comme le fils du meunier n'aimait pas travailler dans la cuisine chaude et embuée et qu'il laissait tout le temps tomber des assiettes, il ne tarda pas à être renvoyé. Le hasard voulut que le valet d'écurie eût choisi ce moment pour s'enfuir et le jeune homme se retrouva donc embauché dans les écuries du palais pour panser les chevaux du roi. Un jour, il entendit le roi parler au palefrenier. « Le duc de Ravencourt nous a déclaré la guerre. Il marche sur la ville en ce moment même, et j'ai grand peur qu'il ne remporte la victoire, car nous sommes inférieurs en nombre. » Le jeune homme admirait le roi et ne voulait pas le voir vaincu. Comment pouvait-il l'aider ? C'est alors qu'il se rappela les paroles du petit homme vert. Il trouva un chêne et frotta 3 feuilles les unes contre les autres. En un clin d'œil, le petit homme vert apparut. « Ferme les yeux, tourne 2 fois sur toi-même et tu verras comment je vais t'aider. » Le jeune homme obéit et se retrouva, vêtu d'une armure, assis sur un gigantesque destrier à la tête d'une immense troupe de soldats. Ils franchirent les portes du palais au galop, et quand le duc de Ravencourt aperçut cette puissante armée, il fit demi-tour et s'enfuit. Le roi fut ravi, mais lorsqu'il voulut remercier le chevalier inconnu, celui-ci avait disparu. Après une telle aventure, le jeune homme eut du mal à se contenter de récurer les écuries, et bientôt le palefrenier dut engager un nouveau valet. Le hasard, cependant, joua de nouveau en faveur du fils du meunier. Le jardinier du palais se faisait vieux et il fut enchanté de trouver quelqu'un pour l'aider à bêcher et à désherber. Cette fois, le jeune homme était vraiment heureux car il pouvait utiliser tous les secrets enseignés par le petit homme vert. Jamais les jardins n'avaient été aussi beaux. La princesse vint admirer les roses grimpantes, cascadant sur les vieux murs du palais et elle ne tarda pas à repérer le jeune homme travaillant avec diligence. Elle lui parla, mais bien qu'il lui sourit, il ne prononça pas un mot. La princesse était perplexe. Chaque jour, le jeune homme lui coupait des roses pour orner ses cheveux, et du chèvrefeuille pour parfumer sa chambre, et de la lavande pour embaumer son bain. Pourtant, il restait silencieux. Une année s'écoula, et le roi pensa au chevalier inconnu qui l'avait sauvé du duc de Ravencourt. Il envoya des messagers dans tout le royaume pour demander au chevalier de se présenter à la cour. mais l'inconnu ne vint pas. Alors le roi annonça que si le chevalier se faisait connaître, il pourrait épouser la princesse. Le roi était tellement sûr que cela suffirait à convaincre le chevalier qu'il invita tout le monde au mariage et ordonna au cuisinier de préparer un grand festin. Il donna à la princesse un coffret d'or qu'elle devrait offrir au chevalier lors de son arrivée. Le festin fut splendide et les invités passèrent une excellente journée. Mais du mystérieux chevalier, point de signe. La princesse, à vrai dire, ne s'en souciait pas, car elle était tombée amoureuse du jeune jardinier silencieux. Ce soir-là, elle se rendit dans le jardin où elle trouva le jeune homme. Elle jeta dans ses mains le coffret d'or, puis s'enfuit sans oser le regarder. Au point du jour, le petit homme vert apparut soudain dans le jardin. Il tenait un magnifique costume de velours vert, brodé de feuilles de chêne dorées. Dehors se tenait une compagnie de soldats portant au cou des trompettes d'or. Le jeune homme enfila le costume et marcha jusqu'aux portes du palais suivi de son armée. Les soldats embouchèrent leurs trompettes et le roi, réveillé par cette sonnerie stridente, surgit sur un balcon en chemise de nuit. En voyant le mystérieux chevalier dans la cour, il courut chercher la princesse. Celle-ci fut transportée de joie en découvrant que le chevalier, portant le coffret d'or, n'était autre que le jardinier silencieux. Le petit homme vert apparut alors et déclara au jeune homme qu'il le libérait de son vœu de silence. Après avoir longtemps parlé, tant ils avaient de choses à se dire, la princesse et le jeune homme se marièrent et tous vécurent heureux à jamais.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes,
réalistes, positifs.
Aventuriers? Des résistants, avec un grand R.
Oh!
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent des autres.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Nos pères commencèrent le droit. Michelet, 1847.
Nos pères, il faut le répéter, furent ce qu'il fallait faire alors, commencèrent précisément comme il fallait commencer. Ils trouvèrent l'arbitraire dans le ciel et sur la terre, et ils commencèrent le droit. Ils trouvèrent l'individu désarmé, nu, sans garantie, confondu, perdu dans une apparente unité qui n'était qu'une mort commune. Pour qu'il n'eût aucun recours, même au suprême tribunal, le dogme religieux l'enveloppait en même temps dans la solidarité d'une faute qu'il n'avait pas faite. Ce dogme éminemment charnel supposait que, du père au fils, l'injustice passe avec le sang. Il fallait avant toute chose revendiquer le droit de l'homme si cruellement méconnu. Rétablir cette vérité, trop vraie et pourtant obscurcie, l'homme a droit. Il est quelque chose. On ne peut le nier, l'annuler, même au nom de Dieu. Il répond, mais pour ses actions, pour ce qu'il fait de mal ou de bien. Ainsi disparaît du monde la fausse solidarité, l'injuste transmission du bien perpétuée dans la noblesse, l'injuste transmission du mal par le péché originel, ou la flétrissure civile des descendants du coupable. La révolution les efface. Est-ce là, homme de ce temps, ce que vous taxez d'individualisme, ce que vous appelez un droit égoïste? Mais songez donc que, sans ce droit de l'individu qui seul l'a constitué, l'homme n'était pas, n'agissait pas, donc ne pouvait fraterniser. Il fallait bien abolir la fraternité de la mort pour fonder celle de la vie. Ne parlez pas d'égoïsme. L'histoire répondrait ici tout autant que la logique. C'est au premier moment de la révolution, au moment où elle proclame le droit de l'individu, c'est alors que l'âme de la France, loin de se resserrer, s'étend, embrasse le monde entier d'une pensée sympathique, alors qu'elle offre à tous la paix, veut mettre en commun entre tous son trésor, la liberté. Il semble que le moment de la naissance, l'entrée d'une vie douteuse encore, est pour tout être celui d'un légitime égoïsme. Le nouveau-né, nous le voyons, veut durer, vivre avant tout. Ici, il n'en fut pas de même. La jeune liberté française, lorsqu'elle ouvrit les yeux au jour, lorsqu'elle dit le premier mot qui ravit toute créature nouvelle, « Je suis », eh bien alors même, sa pensée ne fut point limitée au « moi ». Elle ne s'enferma pas dans une joie personnelle. Elle étendit au genre humain sa vie et son espérance. Le premier mouvement qu'elle fit dans son berceau, ce fut d'ouvrir ses bras fraternels. « Je suis », dit-elle, « à tous les peuples. » « Ô mes frères, vous serez aussi !» Ce fut sa glorieuse erreur, sa faiblesse, touchante et sublime. La révolution, il faut l'avouer, commença par aimer tout.
Allumeurs de réverbères.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Une utopie en construction, une parole et un éco-geste.
For the world, ha ha. For the world, ha ha. Ha ha ha. For the world, ha ha.
Extrait 2. Je reviens de l'inconnu de Lyle Watson. Albin Michel, 1977. Les radiesthésistes suggèrent qu'il existe un lien entre le cancer et les maisons qui sont édifiées au-dessus de courants noirs dans lesquels le flux terrestre est devenu aigre. Ils croient qu'il est possible de purifier ces courants en jalonnant leur parcours de piquets de métal fichés en terre. L'idée est d'attirer les énergies bénéfiques et d'évacuer les mauvaises. Cela rétablit un juste rapport entre les contraires, de la même façon que l'acupuncture maintient l'équilibre entre les forces complémentaires du yin et du yang. Les méridiens acupuncteurs suivent un schéma qui ne correspond à aucun système physiologique connu. On pensait qu'ils étaient purement imaginaires, jusqu'à ce que fussent mis au point des instruments tels que le tobiscope russe qui indiquèrent les lignes et les points et fournirent à la science l'élément électronique dont elle a besoin. Il est possible que ce courant vital qui semble animer le corps humain soit le même que celui qui court à travers les artères de notre planète. Dans la cosmologie des aborigènes, la Terre est considérée comme un organisme géant ayant ses propres fonctions. Un grand nombre de leurs rituels sont destinés à assurer le flux harmonieux et continu des essences vitales de la planète. Ils se sentent directement responsables de sa santé et de son bien-être. J'avais l'impression que le Timbangwan agissait de même. Grattant ici, explorant là, veillant aux plus petits détails du rituel jusqu'à ce que tout fût parfait. Car un rituel est quelque chose qui existe en soi. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait, les mots que l'on prononce ou le lieu que l'on choisit pour l'exécuter. Que l'on mette de la terre sur un tumulus ou une offrande sur un autel, que l'on fasse des sacrifices aux esprits ou que l'on consacre une chapelle, que l'on se voue à une divinité ou que l'on marche nu sur des charbons ardents, cela n'a en fait qu'une importance toute relative, car ces éléments en eux-mêmes ne sont pas particuliers au rituel. C'est l'ensemble de la démarche qui compte, et qui compte vraiment. Si tout marche bien, les parties du rituel se fondent en un tout qui ne ressemble à aucun de ses composants. Il devient un mécanisme destiné à faire passer l'abstraction de notre réalité dans le flux vital où tout peut arriver.
L'eau douce, par Peter Clegg.
L'eau, sous toutes ses formes, est notre lien planétaire. Les changements climatiques induits par l'activité humaine ont profondément modifié notre système hydrologique. Avec la hausse des températures, l'évaporation de l'eau des sols et des plantes augmente, libérant davantage d'eau dans l'atmosphère, ce qui entraîne des précipitations plus intenses dans certaines régions et des sécheresses plus sévères dans d'autres. En montagne, la neige, source première d'eau pour des milliards d'individus, tombe sous forme de pluie ou fond plutôt que d'habitude, aggravant les inondations et limitant la quantité d'eau disponible en période chaude. L'élévation du niveau des mers provoque des intrusions d'eau salée dans les aquifères d'eau douce des régions côtières, les rendant impropres à la consommation. Le réchauffement et la dégradation des fleuves ont des conséquences désastreuses sur les zones de pêche et autres écosystèmes aquatiques. Les climatologues prédisent depuis longtemps ces impacts, qui se manifestent désormais parce que la communauté internationale a perdu du temps à tergiverser, temporiser et débattre. Et ces impacts sont aujourd'hui amplifiés par la crise mondiale de l'eau qui, en soi, est déjà dramatique. Des milliards d'individus sont encore privés d'eau potable saine et abordable et de systèmes d'assainissement. Les rejets de déchets industriels et humains polluent nos cours d'eau. Les prélèvements humains d'eau douce détériorent nos écosystèmes aquatiques dans le monde entier. Les conflits violents liés à l'eau augmentent en nombre et en intensité. En Inde et en Iran, la sécheresse et les pénuries d'eau ont récemment déclenché des émeutes. En Afrique subsaharienne, agriculteurs et bergers s'affrontent sur la question de l'accès aux terres et à l'eau, qui est de plus en plus utilisée comme arme. De plus en plus de régions approchent ou ont atteint le pic de l'eau. Seuil critique où les pressions physiques, économiques ou écologiques interdisent de prélever davantage d'eau. L'homme a littéralement consommé certains fleuves jusqu'à la dernière goutte, ou presque, comme le Colorado, partagé entre 7 États aux États-Unis et au Mexique. De nombreux bassins hydrogéologiques sont surexploités en Chine, en Inde, au Moyen-Orient et aux États-Unis, avec des conséquences en cascade, affaissement de terrain, enchérissement des coûts de pompage, épuisement des sols agricoles. Ces pics de l'eau, associés aux impacts croissants du changement climatique, nous invitent à reconsidérer de fond en comble notre rapport à l'eau. Cela étant, une autre approche est possible, une voie douce. Pour l'eau qui permettrait tout à la fois de résoudre les problèmes d'accès aux ressources en eau dans le monde et de réduire notre vulnérabilité au changement climatique. Cette voie douce consiste à renoncer à s'appuyer uniquement sur des infrastructures en dur et centralisées comme les barrages, les aqueducs et les grandes stations de traitement des eaux pour privilégier le traitement et le recyclage de l'eau, la récupération et la gestion rationnelle des eaux pluviales, les réseaux de distribution d'eau à plus petite échelle et lorsque les conditions économiques et environnementales le permettent, la désalinisation des eaux saumâtres et de l'eau de mer. Cette démarche nous impose également de reconsidérer la façon dont nous utilisons l'eau et d'optimiser les services qu'elle nous rend, tout en minimisant la quantité d'eau et d'énergie que nous consommons. La voie douce est une voie plus équitable, qui tient compte de l'importance fondamentale qu'il y a à préserver des écosystèmes sains et des communautés saines. Nous devons nous attaquer aux inégalités flagrantes de nos systèmes de distribution d'eau et d'énergie, afin de réduire les impacts disproportionnés que le changement climatique aura sur les communautés déjà marginalisées et vulnérables. C'est en assurant à tous de l'eau potable et des systèmes d'assainissement, en protégeant et régénérant les écosystèmes détériorés et en bâtissant une résilience face aux impacts climatiques désormais inévitables que nous viendrons à bout de ces inégalités et que nous préparerons un avenir où les ressources en eau seront plus durables. Et enfin, pour finir cette rubrique environnement, la recette éco-geste pour vous et pour faire plaisir à vos proches. La recette pour confectionner du produit lave-vitre. Pour vos vitres et vos miroirs, ce produit sera aussi efficace que ceux que vous pourriez trouver en grande surface, voire mieux, car il ne laisse pas d'effet gras. Il s'agit tout simplement de l'eau de cuisson des pommes de terre. Mode d'emploi. Cuisez vos pommes de terre pour préparer un bon repas. Ôtez vos pommes de terre de la casserole et gardez l'eau. Laissez refroidir cette eau de cuisson, versez dans un flacon avec spray. C'est prêt! Vous venez de confectionner un produit lave-vitre, écologique, efficace et économique, avec pour seul ingrédient l'eau de cuisson de vos pommes de terre.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de 4 jours. Préambule. La société a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l'organisation du travail sur 5 jours en mettant en place la semaine de 4 jours de travail sans réduction du temps de travail. La société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l'instauration de la semaine de 35 heures sur 4 jours en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés, ainsi que sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Article 1. Champ d'application. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société présents ou futurs, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les alternants, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, les alternants ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4 jours. Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires. Article 2. Modalités d'organisation de la semaine de 4 jours. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l'entreprise sera de 35 heures de travail effectif réparties sur 4 jours de travail et non plus 5 jours.
Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8h45. Chaque salarié bénéficiera d'un jour de repos supplémentaire par semaine. La répartition de la durée du travail pourra inclure le samedi. Ce jour de repos supplémentaire ne pourra être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée. Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la direction. La direction s'appuiera sur les critères objectifs tels que l'ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l'entreprise, la continuité du service. Il est expressément prévu que seule la société déterminera les modalités d'organisation de la semaine de 4 jours. Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l'organisation de l'activité et notamment avec les horaires d'ouverture et de fermeture de l'entreprise. C'est pourquoi la direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines. Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n'entraîne pas de dépassement des limites légales de la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogation légale, la durée quotidienne du travail effectif ne pourra excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire prévu par la Convention collective des services de l'automobile est d'une durée minimale de 36 heures consécutives, incluant le dimanche. Article 3. Exception à la semaine de 4 jours. La direction se réserve la possibilité d'exclure certains services de l'organisation du travail sur 4 jours, lorsque les contraintes de l'activité le justifient, notamment au regard de l'accueil de la clientèle, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours. Par ailleurs, ce dispositif dérogatoire pourra être mis en place si un salarié en fait la demande à la direction pour des raisons d'ordre personnel liées par exemple à la garde d'enfants. Toutefois, cette dérogation ne sera accordée que sur décision de la direction. Article 4. Rémunération. La modification de l'organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n'entraîne aucune diminution de la durée du travail et par conséquent, aucune modification de la rémunération. Article 5. Salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours pourront demander à bénéficier de la semaine de 4 jours sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens. Article 6. Entrée en vigueur et durée de l'accord. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 7, révision de l'accord. Article 8, dénonciation. Article 9, notification et dépôt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.data.gouv.fr/fr/datasets/aco-accord-d'entreprise/.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr, sur le site de Jet FM ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour, habillage musical, Chaban Musique. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.